L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Xavier Cavillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes propriétaire et responsable technique d'une unité hydroélectrique au Pays Basque.
Oui, tout à fait. Vous êtes ici dans le département 64, forcément, au Pays Basque, dans la région de la Basse-Navarre. Cette région fait de l'électricité depuis très très longtemps, du fait de nombreux cours d'eau que l'on a et puis du dénivellement de notre département.
Notamment de l'eau un peu toute l'année grâce aux neiges qui fondent régulièrement tout au long de l'année. C'est pour ça qu'il y a depuis longtemps des moulins un peu partout par ici.
Oui, tout à fait. Plus particulièrement, on a un inventaire 1810 qui a inventorié 3002 moulins dans le département 64. Et nous comptons à peu près à cette époque-là autant de moulins dans le Béarn que dans le Pays Basque. Et nous comptons moins maintenant de moulins du fait qu'actuellement il doit y avoir une centaine de moulins tout au plus dans le Pays Basque. Voilà.
Donc ici sur votre territoire, le canton de Garassi-Baïgorri, on est sur un territoire du Pays Basque qui est en territoire à énergie positive. C'est quoi ça?
Alors, Territoire Énergie Positive, c'est une sorte de label qui a été promu en 2012, à l'époque, par notre président de comité commune, qui cherchait justement à promouvoir l'énergie renouvelable d'un côté, mais aussi à regarder l'état de notre territoire pour savoir et pour développer justement et l'énergie renouvelable et aussi lutter contre le changement climatique, voilà, principalement.
Donc, c'est de la petite hydroélectricité, mais il y a aussi du bois. Et bien sûr, du photovoltaïque, il y a toujours du soleil partout.
Oui, on a une chance justement sur ce territoire d'avoir justement à la fois du soleil. En effet, on a des organismes qui sont créés depuis pour promouvoir par exemple le panneau photovoltaïque. Mais nous, ça va faire depuis près de plus d'un siècle, vu que la première centrale hydroélectrique a été créée en Soule en 1892, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait de l'énergie hydroélectrique. Ici, sur Saint-Martin-la-Rossa, elle a été créée dans les années 1960. Nous connaissons bien cette technologie-là. Nous connaissons aussi bien parce que nos ancêtres nous ont légué justement ce patrimoine moulin, mais aussi minier, parce que bon, moi, je travaille aussi sur le site de la fonderie des mines de Banca, qui utilisait aussi la force de l'eau pour justement aider les gens dans les parties mécaniques et aussi pour le bois aussi. Donc on a cette chance-là. Et puis, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on fait de l'énergie hydroélectrique, ouais, effectivement. À l'époque, les gens cherchaient à se nourrir et la force de l'eau a été longtemps l'outil par excellence pour justement aider les gens dans leurs tâches quotidiennes au niveau même de l'agriculture et surtout pour nourrir les gens parce que les moulins nourrissaient et d'ailleurs même les seigneurs étaient propriétaires des moulins, donc c'était un outil on va dire de régulation de la population ou même d'un droit. Et ces moulins ont longtemps effectivement servi à nourrir les gens du territoire, ouais, en effet. Les mines de Banca, qui datent déjà bien avant la Révolution française, qui utilisaient la force de l'eau sur le site. Alors c'était soit des bocards, des laminoirs, des marteaux pilons pour battre le fer, mais aussi des outils de soufflerie, parce que le fourneau, par exemple, avait besoin d'une soufflerie. Et c'était en fait la force de l'eau du moulin ou d'une roue qui servait de souffler. Et particulièrement sur Banca, on avait aussi un outil. C'est une roue à exorer de l'eau, pomper de l'eau. Et cette pompe était mue grâce à une roue, qui était utilisée par la force de l'eau, tout simplement. En fait, les barrages ont servi aussi pour l'irrigation, pour la force de l'eau, pour beaucoup d'autres éléments, et effectivement. Et nous, on essaie de perdurer cet outil que nous ont légué nos anciens et se faire au mieux pour justement l'adapter à nos vies contemporaines. Voilà.
Mais alors aujourd'hui, on est sur un paradoxe. Et vous, en tant que propriétaire et responsable technique d'unités hydroélectriques au Pays Basque, vous êtes particulièrement touché, vous et d'autres propriétaires de moulins, parce qu'on dit qu'il faut développer les énergies renouvelables, donc notamment l'hydroélectricité. Et pourtant, vous avez d'énormes freins administratifs qui vous tombent sur le dos. Donc, il y a l'objectif écologique depuis un certain temps de retrouver une bonne qualité des rivières. On a eu des directives européennes, on a eu des objectifs ambitieux. Et aujourd'hui, vous avez donc le ministère, l'ADREAL, en fait, qui dépend de l'agriculture, et qui vient et qui vous met des bâtons dans les roues et qui, malheureusement, pour des impératifs d'écologie, vous empêche de produire de l'énergie renouvelable hydroélectrique ici.
Oui, c'est totalement incompréhensible, justement. Surtout, c'est un sujet d'actualité parce que le changement climatique nous touche tous. Et demain, il faudra effectivement développer les énergies renouvelables tout en, bien sûr, en faisant très attention à ne pas la consommer ou à la gaspiller inutilement. Je suis tout à fait conscient de ça aussi. Mais pour revenir à nos freins, effectivement, on ne comprend pas pourquoi la politique actuelle est de freiner, justement, ou même d'arrêter ou de supprimer des ouvrages, alors que tout simplement, sur ces ouvrages, on pourrait trouver d'autres solutions, financer à 100% des dispositifs de franchissement. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a nos outils qui ne sont pas forcément performants, dans la mesure où on a le transit sédimentaire qui bouche nos canaux, et donc pour pouvoir enlever ce gravier, on se retrouve avec des demandes faramineuses, lourdes en termes de demandes, c'est-à-dire ce sont des dossiers qui sont très très lourds à constituer et très chers, parce que maintenant il faut passer par des bureaux d'études qui sont pas abordables pour des pauvres petits moulins qui n'ont pas les moyens forcément financiers pour y arriver. Et tout ça fait qu'à terme, les propriétaires de moulins, comme de centrales hydroélectriques, se retrouvent dépourvus de produire de l'énergie renouvelable ou même de faire actionner leur vieux moulin parce que, par exemple, tout simplement, un canal est bouché ou on ne peut plus entretenir tout simplement nos ouvrages multiséculaires. Voilà, le problème, il est là.
Alors, une échelle à poissons, justement, donc là, je m'approche un petit peu. On parlait des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc là, on est dans une bergerie, en fait. Un peu isolé du vent. Et devant nous, on a justement un bel exemple d'une échelle à poissons. Alors, une échelle à poissons, ce n'est pas une échelle exactement. Hein. Vous pouvez décrire.
Non, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de physique avec des barreaux. C'est un dispositif, là, que l'on a. Bon, il en existe plusieurs modèles, hein, mais le plus courant, on l'a devant. En fait, il s'agit de bassins successifs, dont le migrateur ou le poisson doit sauter des petites chutes de 30 cm, suivant, bien sûr, le débit que l'on fait rentrer dans l'échelle à poisson. Et au fur et à mesure que le poisson saute une chute, il reste dans un bassin, puis ensuite il passe sur un autre bassin, et consécutivement il monte d'un étage par étage et arrive en amont du bief, en fait. Et à contrario, bien sûr, si le poisson veut descendre, il reprend un courant, soit il prend un courant direct par une chute au niveau de notre ouvrage, ou soit il reprend la passe à poisson, mais dans l'autre sens, tout simplement.
Donc là, on est devant un de vos barrages. Ici, on produit de l'électricité pour combien de personnes ?
Nous avons une production de 350 kW. C'est la machine à la production maximale que peut produire. Dans l'année, on peut compter que la production de cette unité correspond à la consommation de 600 habitants dans l'année. C'est-à-dire ce qui correspond, on va dire, au nombre de population de Saint-Martin-d'Arrossade où se trouve le moulin. On pourrait dire que le moulin subvient à la consommation de la population de Saint-Martin-d'Arrossade dans l'année, tout simplement. Donc effectivement, je fais de l'information quotidiennement. Je me suis inscrit à d'autres associations et d'autres groupements de réflexion. Alors pour l'écoute, pour vous dire les choses clairement, effectivement, autrefois, quand on était en comité de communes, j'avais beaucoup plus de chances d'aller voir mon président de comité de communes, en l'occurrence le maire de cette commune de Saint-Martin-d'Arrossade ou précédemment celui d'Ascarat. Et effectivement, ils avaient une oreille attentive et beaucoup plus à l'écoute. Maintenant, effectivement, la comité de communes, c'est un grand moulin, si on peut dire, où effectivement, on peut se perdre là-dedans. Et pour pouvoir avoir une écoute, il est très difficile d'aller voir le président pour pouvoir faire le nécessaire. Donc, mon travail principalement, c'est d'aller prendre mon bâton pèlerin et d'aller faire justement des démarches à ce niveau-là.
En fait, voilà, là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc, des communes qui sont engagées sur un territoire à énergie positive, faisant partie d'une aglo qui met en place un plan action climat, et en même temps, une administration plus étatique qui vient vous taper sur les doigts et vous mettre des freins administratifs sur la question de la continuité écologique qui est limitée par ces ouvrages hydroélectriques. Donc vous avez donc une écoute quand même au niveau des collectivités. Vous vous sentez quand même un peu écouté ou c'est difficile en tant que petit producteur d'hydroélectricité ?
Effectivement, on est écouté. Je l'avoue que mon travail est justement de faire cette approche au niveau de tous les élus, que ce soit la comité d'agglomération, que ce soit les maires. D'ailleurs, j'essaie de monter un collectif à ce niveau-là pour éviter de créer un moratoire plutôt, pour éviter les arrasements des barrages. Malgré tout, je vois que la comité d'agglomération a un grand travail par rapport au plan climat et énergie qui est en cours en ce moment et dont je remercie un petit peu l'écoute qu'a ces élus pour pouvoir faire un état des lieux et développer les énergies renouvelables. Mais effectivement, leur marge de manœuvre en matière de mise en place et de maintien de nos outils est très difficile par rapport à l'État. Et on voit que effectivement, l'État, d'un côté, demande à développer les énergies renouvelables et puis, d'un autre côté, met des freins pour le développement de cette énergie. Donc, moi, je me questionne toujours sur ce problème que l'on rencontre continuellement, à savoir, est-ce qu'on développe les énergies renouvelables et qui sera responsable dans quelques échéances, à savoir qu'on n'est pas arrivé à cet engagement-là. Donc, moi, j'ai grand espoir à la communauté d'agglomération Pays Basque pour justement prendre en main et développer et prendre le nécessaire pour pouvoir justement développer les énergies renouvelables au Pays Basque. Voilà.
Alors, pour finir sur le mix énergétique dont on parlait au début, pour un territoire à énergie positive, il n'y a pas, bien sûr, que l'hydroélectricité à développer comme énergie renouvelable. On en parlait un petit peu. Il y a le bois et le photovoltaïque. Et justement, ici, sur ce territoire qui est très dynamique quand même, hein, le Pays Basque, il y a Sugarail et INR. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, Sugarail, c'est une SIC, société coopérative, oui, d'intérêt collectif, effectivement. Et comme à INR, alors INR, j'y ai adhéré depuis 4-5 ans. INR est principalement lancé sur les panneaux photovoltaïques. Je travaille avec eux pour justement leur créer une dynamique, pas seulement avec les panneaux photovoltaïques, leur apporter justement d'autres, comme l'hydroélectricité notamment, et voilà. Et sur ce point-là, INR fait un gros travail justement pour pouvoir développer les énergies renouvelables en ce moment, en partenariat avec Energia, qui est le fournisseur, on va dire, Pays Basque, hein, premier fournisseur Pays Basque.
Alors, INR, ce sont des producteurs qui s'unissent pour justement produire en énergie renouvelable.
Oui, pour créer un mix énergétique ici au Pays Basque, sur ce territoire-là. Et Sugarail, en fait, c'est une petite entreprise qui veut développer la partie bois, parce qu'en fait, on a une chance inouïe sur ce territoire, c'est qu'on a toutes les énergies renouvelables, on a tout. On a tout ici. Il ne manque plus que de bonnes intentions et de personnes qui veulent avoir la volonté de participer à la lutte contre le changement climatique avec les outils que l'on a sur notre territoire. Et je tire le chapeau justement sur ces personnes-là qui croient à leur projet, comme moi je crois à mon projet aussi de lutte contre le changement climatique.
Alors du coup, Sugarail exploite la forêt en bûche et plaquettes, c'est ça ?
Oui, alors bon, je ne suis pas même le premier à vous le dire, je suis juste un petit actionnaire là-dedans. Le bois était une énergie qu'on a utilisée plus importante encore que l'hydro. Le bois a toujours été utilisé, on a des forêts. D'ailleurs, même si on revient sur la fonderie des mines de Manka, la fonderie de Manka a été créée parce qu'il y avait de l'eau, mais il y avait aussi du bois pour pouvoir faire marcher le haut fourneau de Manka. Il faut bien sûr d'un côté couper, mais aussi d'un côté aussi reboiser.
Voilà, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce qu'il y a eu quand même aussi pas mal d'histoires ces derniers temps sur les énergies renouvelables bois. D'un point de vue industriel, finalement, ça ressemble un peu à votre histoire sur l'hydroélectricité. Quand on est des petits producteurs artisanaux et qu'on le fait avec une charte et de l'éthique, ça peut fonctionner. Mais quand on devient trop industriel dans ses façons de faire, des fois, c'est exploiter la forêt, c'est catastrophique.
Ben voilà, on va tirer les enseignements du passé. Banca a a été arrêté justement parce qu'ils avaient déforesté la forêt d'Aïra en amont. Et c'est ça qui a créé un malaise à ce niveau-là et qui a conduit notamment à l'arrêt de la fonderie. N'ayant plus de bois ou difficilement avoir du bois, la fonderie s'est arrêtée. Donc je pense qu'on a des leçons à tirer des enseignements de nos anciens. Être respectueux de l'environnement, ça c'est une évidence. Et surtout faire attention à ce que l'on ne consomme pas ou que l'on gaspille pas ce potentiel et l'énergie de tous les jours, à savoir que ça soit la lumière, que ça soit nous, dans nos approches quotidiennes. Parce qu'il n'est pas concevable non plus que l'on développe les énergies renouvelables à outrance et que quelque part aussi, on les gaspille. Donc il y a cette réflexion que doivent avoir tous les gens quotidiennement, à savoir qu'on fait de l'énergie renouvelable, soit, mais aussi qu'on ne la gaspille pas inutilement.
Le moulin qui a été transformé, le moulin de Berroco,
qui date de l'époque du 15e siècle, c'est-à-dire qu'à l'époque encore, on était dans le royaume de Navarre ici. On n'était pas au royaume de France. Et ce moulin avait été construit à l'époque pour pouvoir alimenter la population de Saint-Martin-d'Arrossa en farine et en tout moyen pour pouvoir faire du pain, voilà, et nourrir la population.
Alors, on a des pylônes de taille très différente là, dans l'environnement direct.
Oui, tout à fait. Étrangement, on a des lignes à 63 000 volts qui parsèment en fait une ligne, on va dire, qui est en train de monter sur nos montagnes avec, on va dire, 6 câbles, 7 câbles qui traversent justement ces grands pylônes qui doivent faire à peu près 15 mètres de haut. Ça, c'est la très haute tension. On est dans du 63 000 volts. Cette alimentation, enfin, ces pylônes viennent alimenter en fait le réseau et viennent en fait des grosses centrales nucléaires en fait pour alimenter en électricité en grande quantité. Ça vient directement des centrales nucléaires. On est à plus de 200 km, voire 300 km, on va dire. Donc, je voudrais soulever une petite réflexion. Et à côté, là, vous avez notre ligne 20 000 volts, où on voit directement notre ligne qui croise justement cette ligne de 63 000 volts.
Et pour dire, elle est branchée à ce moulin.
Elle est branchée à ce moulin, tout à fait. C'est un moulin qui produit du 20 000 volts et qui va directement alimenter le village de Saint-Martin-d'Arrossa. Et l'avantage de ces deux lignes, c'est que la nôtre, elle a très peu de pertes de ligne, c'est-à-dire qu'elle alimente directement le réseau du village, que celle de 63 000 volts, vous avez 250 voire 300 km pour pouvoir arriver. Et cette perte de ligne est tellement conséquente, je crois qu'elle correspond même à la production du moulin qu'on a à côté de nous. Alors moi, j'ai, comme tout le monde, je me suis renseigné auprès d'Internet et de quelques producteurs et même de personnes d'Enedis. On parle entre 3 et 5% de la production nationale. Je pense que les chiffres sont relativement bas. Tout l'intérêt des moulins qui sont de proximité, et j'avoue aussi une chose, c'est que ces moulins apportent aussi une plus-value au niveau des travaux. On a voyé le moulin qui a été repeint par le peintre local, le mécanicien, le forgeron, c'est là. Donc on participe aussi au développement économique du territoire. Donc quelque part, ces moulins ont plusieurs utilités. On est en bout de chaîne, si on réfléchit bien. On est l'aspect économique, l'aspect énergétique aussi de notre territoire, parce que nos moulins permettent d'alimenter le réseau. Voilà.
Et donc, il y a aussi l'intérêt de sécuriser le réseau, parce qu'il y a eu donc, un incident en 1999. Vous pouvez raconter qu'est-ce qui s'est passé ici localement ?
Voilà, pour raconter l'anecdote, en 1999, nous avons eu la fameuse tempête Klaus qui avait balayé la France. Et effectivement, la centrale nucléaire de Blaye avait eu un petit problème. C'est que la crue a été tellement importante à cet endroit-là que le mur de protection des pompes de refroidissement s'est retrouvé submergé par une vague de la grande rivière qui alimentait les centrales nucléaires. Et cette rivière était tellement concentrée en matière en suspension que les pompes elles-mêmes étaient, les crépines, enfin les filtres étaient bouchés justement par ces matières en suspension. Si bien que, n'ayant plus de moyens de refroidir ces centrales nucléaires, si bien que, quelque part, on avait été averti qu'on aurait été pénalisé ici au Pays Basque, sauf que, grâce à nos moulins qui sont répartis dans tout le territoire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous a permis justement de pallier à ce moment-là, en 1999, à pouvoir produire notre énergie et à tenir le réseau sur deux conditions. Bien sûr, une, c'est qu'on a produit de l'énergie renouvelable, mais aussi que les gens ont fait très attention à ce moment-là à ne pas gaspiller l'énergie que l'on produisait sur le réseau. Nous avons ici le canal amené d'eau. Ce canal amené d'eau, en fait, l'eau est transitée en fait par le barrage qui se situe en amont dont je vous ai fait l'explication. Cette eau est arrivée ici au Nekin et une autre partie de l'eau sert justement à alimenter le tronçon court-circuité du moulin, amène l'eau jusqu'à la passe à poissons et permet aux poissons en fait d'arriver de la sortie du moulin jusqu'au barrage pour pouvoir arriver en amont du barrage. Ici, nous avons alors le canal d'amener d'eau avec une grille ici de protection pour isoler tout ce qui est matière, grosse matière en suspension, que ce soit les branches, les troncs, même des pneus. On a des pneus et beaucoup de plastique en ce moment aussi, malheureusement. Et pour éviter que ces embâcles rentrent dans les hélices et bloquent les hélices. Et cette eau, ensuite, est amenée à la sortie et redistribuée dans la rivière au bout du canal de fuite. Cette eau, en fait, est prise. On n'utilise pas l'eau par lui-même, on utilise la force de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, qu'on la prenne, quand on la restitue, elle n'est pas réchauffée, comme les réacteurs nucléaires, par exemple. Elle n'est pas transformée, elle n'est pas polluée. Et en fait, elle ne fait que transiter dans une hélice, voilà, tout simplement. Donc ici, vous avez la turbine qui est en dessous de notre plongée. C'est une hélice qui fait fonctionner en fait un multiplicateur de vitesse. Ce multiplicateur de vitesse multiplie la vitesse de 200 tours à 1000 tours. Et de ces 1000 tours, on a une sorte de dynamo, nous on appelle ça une génératrice, qui transforme en fait le mouvement mécanique en mouvement électrique. Et de ce mouvement mécanique, nous avons les câbles qui s'en vont là-dessus, qui rejoignent en fait le poste de transformation, et nous passons de 500 volts à 20 000 volts pour pouvoir alimenter directement le réseau du village de Saint-Martin-de-Rosa. Nous, personnellement, ces transformateurs, c'est une obligation au niveau du réseau électrique. On en trouve partout maintenant. Sauf que ce dernier-là, il a été modifié et c'est un transformateur sec. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'huile dedans. Et la nouvelle technologie nous oblige justement maintenant à avoir des outils performants et sensibles à l'environnement. On a d'ailleurs refait en 2011 toute l'infrastructure. On a tout rénové dans cette installation. On est passé sur des nouvelles technologies, que ce soit des automates, que ce soit des sondes de niveau piézométrique qui nous permet de calculer au millimètre près les débits qui sont au niveau de la centrale, ce qui me permet d'avoir un rendement, c'est pas le mot rendement, une conjugaison de la quantité d'eau qui rentre dans l'eau, dans la turbine, en énergie la plus fine possible, et donc avoir un rendement eau énergie la meilleure. Voilà. Une centrale nucléaire, en fait, pour vous donner un chiffre, pour 100 joules de pression, on va dire de chaleur qu'on doit faire pour pouvoir faire tourner une turbine à vapeur, on sort un rendement d'un tiers. C'est-à-dire qu'un tiers servira simplement à faire de l'électricité. Ici, nous avons un rendement de 98%, entre 80 et 98%. C'est un rendement bien meilleur. On arrive à améliorer ces choses-là, justement, par rapport à les nouvelles technologies. Maintenant, on a des turbines avec des meilleurs rendements, que ce soit des Pelton, même, qui ont un meilleur rendement. Ici, on peut avoir des turbines Kaplan, c'est-à-dire avec un double asservissement. C'est-à-dire que d'un côté, on a une sorte de cercle de vannage qui fait une conjugaison entre l'ouverture d'eau qui rentre dans l'hélice et la pale hélice elle-même qui est mobile. Donc cette conjugaison permet d'avoir un meilleur rendement au niveau des machines. Et en fait aussi, tout ici est transformable. C'est-à-dire que vous avez toute la partie cuivre, toute la partie, même le bâtiment lui-même n'est pas contaminé, vu que c'est un ancien moulin qui servait autrefois même à avoir des habitations. Tout ici est, on va dire, à 98% et recyclable. Bien sûr, si on a un petit peu d'huile, comme vous avez, on peut peut-être éventuellement le voir pour le recycler différemment. Mais sinon, vous avez l'acier, le cuivre, même le béton n'est pas contaminé au même titre qu'une centrale nucléaire. Alors, l'électricité vient ici, au-dessus. Là, on a des contacteurs de couplage et là, on a un gros disjoncteur de coupure générale. C'est ce disjoncteur, en fait, qui alimente, qui coupe l'électricité au cas où on aurait un problème. Voilà. Ici, on a tout ce qui est à partir de contrôle-commande. Nous avons un écran tactile qui nous permet de voir la production instantanée. Et on a aussi la possibilité, grâce à une mémoire externe, ici, de pouvoir stocker toutes nos données depuis 3 ans. À savoir, cet outil nous permet principalement, au cas où il y aurait un dépannage, de pouvoir chercher au plus vite la panne et être le plus opérationnel possible. Car déjà, quand le dépanneur arrive ici, il sait quel outil il doit prendre, si c'est la partie un problème mécanique, si c'est un problème électrique. Donc c'est un outil qui est devenu de plus en plus performant et on cherche justement à améliorer continuellement notre vieil outil à ce niveau-là. Voilà.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.